Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir jusqu'à 20h pour votre émission On refait le match. Nous consacrerons la première demi-heure à notre invité Antoine Comboiré. Nous parlerons évidemment des dernières décisions concernant le football français et international et le probable rachat avant la fin juillet du Toulouse Football Club, club entraîné justement par Antoine Comboiré cette saison pendant 13 matchs. Nous sommes avec Philippe Sanfourche. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous.
Eric Silvestro d'RTL évidemment.
Bonsoir à tous.
Et puis tout à l'heure pour le débrief justement de l'entretien avec Antoine Comboiré, Florian Gazan et Sébastien Tarago de l'équipe seront avec nous. Baptiste Durieux, le relais des auditeurs sur les réseaux sociaux, également des auditeurs qui seront avec nous, supporters de Toulouse. Et comme nous parlerons du football international et espagnol, nous parlerons également de Laurent Blanc. Il y aura des supporters du Real et de l'Atlético Madrid. A tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
RTL. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Merci d'être avec nous jusqu'à 20h avec notre invité ce samedi après Didier Quillot de la Ligue, Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, et Laurent Nicolin, celui de Montpellier. Antoine Comboiré est avec nous. Antoine, bonsoir, comment ça va?
Bonsoir Denis, bonsoir à tous.
Bonsoir Antoine.
Salut Antoine.
Philippe Sanfourche, Eric Silvestro d'RTL sont avec moi. Alors Antoine, votre regard d'abord global sur tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. On a beaucoup évidemment débattu sur tout ce qui s'est passé, les décisions, le championnat à 22, pas à 22, la reprise du championnat, pas de reprise, le gouvernement a tranché. Quel est votre regard là-dessus?
Ben, c'est vrai que ça n'a pas été facile de suivre ce qui s'est passé, parce que je trouve que dans le football français, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de gens parlent. Aujourd'hui, pour moi, le meilleur exemple, c'est l'Allemagne. Alors, à tort ou à raison, mais quand ils ont décidé de travailler tous pour une reprise, tout le monde, a mis la main à la pâte, a mis la main à l'œuvre, et surtout a fait en sorte que le championnat puisse démarrer, et surtout ne pas rester chacun de son côté à discuter si la décision était valable ou pas. Et c'est malheureusement ce qui se passe trop souvent en France, avec des présidents. Je sais que pour eux c'est pas facile, parce qu'ils défendent quand même leur club, ils ont des intérêts personnels très forts, et tout le monde parle, tout le monde s'exprime. Et c'est vrai que ça met énormément de pression sur la Ligue, énormément de pression aussi sur la Fédé. On le voit à l'arrivée, le président, le Grette, a pris une décision. Alors bien sûr, en respectant d'abord l'exécutif, et l'exécutif a décidé que le championnat s'arrêtait. De ce côté-là, il n'y avait aucun souci. Par contre, à mon avis, on a été trop vite en besogne, à savoir de dire que le championnat ne reprenait pas. Maintenant, on respecte la décision qui a été prise. Et suite à ça, ça crée forcément des injustices. On l'a vu avec, bien sûr, les places européennes, mais ça a moins de conséquences, même si le président est en train de se battre pour revoir justement ce classement. Mais c'est surtout pour les clubs qui descendent, où bien sûr, on parle plus de simplement les joueurs, simplement pour les joueurs, mais surtout tous les administratifs, tous les gens qui travaillent autour des clubs. Mmh. Et là, ce sont des catastrophes au niveau des clubs, sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan humain, tout ça et tout. Donc c'est des drames pour les gens. Quoi. Voilà.
On va rappeler quand même, puisqu'on va parler de Toulouse forcément avec vous, Antoine. Vous avez dirigé cette équipe pendant 13 rencontres, pendant 28 matchs. Toulouse, le bilan, c'est 3 victoires, 4 nuls et 21 défaites. Philippe Sanfourche d'RTL.
Oui, Antoine, on vous a beaucoup entendu ces derniers temps, parce que vous faites partie des nombreuses figures du football français qui se sont agglomérées autour notamment de l'exemple du cas d'Amiens qui se bagarre. On a vu qu'il y avait un combat juridique qui va durer, hein, puisque pour rappel, hier le tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'était pas compétent sur la forme pour traiter ce dossier, donc ça va être renvoyé devant le Conseil d'État, ce qui ne préjuge en rien de la décision finale. Mais en quoi est-ce que pour vous c'est une injustice supérieure? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il fallait arrêter ce championnat, il y aurait forcément des équipes qui seraient lésées. Là, il se trouve que ça tombe sur Toulouse et Amiens. C'est terrible, mais on a envie de dire que c'est pas de chance. C'est comme ça, mais en quoi est-ce que c'est une injustice de l'arrêter, ce championnat?
Tout simplement parce que si vous regardez, je parle pour Amiens, par exemple, mais parce que ça aurait pu être Saint-Etienne, ça aurait pu être tous les autres clubs. Je ne parle pas simplement par rapport à Amiens et Toulouse, mais tous les clubs aujourd'hui qui sont en 19e et 20e, dans la mesure où, je prends l'exemple d'Amiens, vous regardez sur les 3 dernières saisons, ils se sont sauvés sur la dernière journée. Sur la dernière journée à chaque fois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il reste 10 matchs. Il reste 30 points en jeu. Amiens aujourd'hui, c'est 4 points de retard. Et quand vous savez que eux, l'expérience qu'ils ont donc sur les années précédentes, même leur montée, vous imaginez leur montée acquise à Reims dans la dernière seconde, sur le but donc de la dernière seconde. Et donc aujourd'hui, c'est une équipe qui est très forte dans le money time. Donc aujourd'hui, vous enlevez donc cette possibilité donc de défendre ces champs jusqu'au bout. Et je vous dis, il y a 30 points en jeu. Et eux, ils ont 4 points de retard. OK? Donc ça, c'est le premier argument. Donc forcément que, bien sûr qu'il y a une injustice. Alors maintenant, l'exécutif a pris la décision d'arrêter le championnat. On respecte ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça coûte au football français? Mais je dis surtout donc aux clubs de Ligue 1. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites un sondage, mais je pense que la majorité pour avoir des discussions avec les entraîneurs, mais surtout avec les joueurs. Bien sûr qu'il y a une injustice parce que ces joueurs-là qui sont dans des clubs, je dirais donc comme Saint-Étienne, comme Nîmes, comme voilà, Brest, ces clubs qui luttent, ils savent qu'ils ont des amis qui sont là-bas, qui sont en train de subir une injustice. Et surtout, pourquoi je me bats? Parce que l'image qu'on a, nous, des footballeurs, c'est toujours des gens égoïstes, des gens qui ne pensent qu'à leur gueule. Et là, on avait une occasion fantastique de montrer qu'on était soudés, qu'on était capable donc d'aller aider des amis qui sont en train de subir une injustice, dans la mesure où, en plus, l'année prochaine, vous avez des droits TV qui explosent. Chaque club va recevoir pas moins de 20 millions d'euros l'année prochaine. C'est-à-dire que même à 22, les clubs aujourd'hui auront encore plus d'argent que ce qu'ils recevaient donc cette année. Vous avez une Coupe de la Ligue qui n'existe plus. Vous avez donc aujourd'hui des joueurs qui ont pris 4 ou 5 mois de vacances pratiquement. Donc l'année prochaine, il n'y a aucun souci pour donc rajouter 4 matchs de plus pour chaque club. Donc c'était au-delà donc de l'aspect, donc on va dire, financier, parce que là on n'est plus là-dessus, c'est de dire, les gars, on a une occasion de montrer qu'on sait être humain, il y a une certaine humanité qu'il faut avoir, on sait être soudé, ce sont les valeurs que nous on défend, les valeurs de cohésion, du courage, parce que c'est du courage pour prendre des décisions comme ça, mais c'est pas un souci. Et puis après, moi en tant que sportif, en tant que joueur, je dis souvent que le jeu appartient donc aux joueurs et aux entraîneurs. Et c'est vrai que souvent les décisions sont prises par des gens qui sont dans les bureaux, pas de souci. Mais nous, quand on ressent une injustice comme celle-ci, on peut aussi donc faire valoir nos droits. Et nos droits à nous, c'est de dire, ben nous, aujourd'hui, on est en train de subir une injustice. Alors, c'est pas un souci pour nous l'année prochaine de nous retrouver à 22. Et d'ailleurs, vous avez vu la décision qui a été prise au niveau de l'Assemblée générale de la Ligue, hein, pour la Ligue 2. Ouais. Aujourd'hui, c'est 22 équipes qui vont jouer.
Ouais. Alors, justement, sûr, Antoine, moi, je voulais vous interroger là-dessus. Quand on voit le côté illisible des décisions, d'un côté, en effet, on laisse la Ligue 1 à 20 clubs, on peut en débattre autant qu'on veut, il n'y a pas de souci. Et en Ligue 2, on décide de ne pas acter de descente là aussi. On a l'impression que c'est totalement illisible. Mais après, on peut aussi se dire, à la place d'Ajaccio, qui était troisième à un point de Lens, pourquoi ne pas jouer de barrage? Pourquoi ne pas voir aussi avec Lens? Ajaccio aurait pu peut-être passer, monter en Ligue 1. Enfin, c'est interminable. Et cette différence de traitement entre la Ligue 2, la Ligue 1, les 20 clubs, les 22, pour moi, c'est incompréhensible.
Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très compliqué la position de M. Le Graët aujourd'hui. Hein. Vous imaginez? C'est lui qui va être obligé. Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Fédé, donc, je veux dire, donc, décide sur tout le football français. Et aujourd'hui, donc, le football amateur décide sur le football professionnel. Je sais pas, moi, c'est les questions que je me pose. Hein.
Oui, parce qu'on va rappeler que c'est la Ligue hein, qui a décidé que la Ligue 2 serait à 22 et que Noël Le Graët est contre cette mesure. C'est Philippe Sanfourchertel.
Mais on n'a pas l'impression qu'il y ait un élan de solidarité en Ligue 1 des présidents. Et même, j'ai envie de dire, parce que je vous ai entendu, Antoine Comboiré, notamment interpeller vos collègues, entraîneurs, les joueurs également, en allant même jusqu'à dire s'il faut faire grève, vous pouvez faire grève. Mais ça fait 15 jours que vous avez lancé cet appel. Je n'ai pas l'impression que moi j'entends des entraîneurs comme Claude Puel ou le.
J'ai vu ça, mais la position de Claude aujourd'hui, elle me fait de la peine, mais en même temps, je comprends parce que lui, donc, il a tellement de soucis aujourd'hui avec Saint-Étienne. Et donc, aujourd'hui, le moindre euro, j'allais dire, donc, compte pour eux. Et c'est vrai que l'année prochaine, de se retrouver, donc, à 22, à se partager, donc, on va dire, cette manne d'argent de droit TV, donc, c'est compliqué. Mmh. Mais moi, je le dis, ça aurait pu être dessus parce que cette année, si le championnat, donc, avait continué, quelle aurait été la situation de Saint-Étienne, donc, en fin de saison? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui et encore une fois j'enlève moi l'idée de dire oh là on est en train de penser de l'argent, mais c'est de dire il y a une injustice aujourd'hui. Amiens ne peut pas défendre ses chances jusqu'au bout, et ça c'est inacceptable. Et quand on est sportif, quand on est quelqu'un de juste et quelqu'un d'honnête, et ben donc on se bat contre ça. Après, je dis pas qu'on va gagner le combat, mais c'est comme un match, il faut le mener, ce match là il faut l'engager, ce match. Après, vous le gagnez, ben tant mieux, vous le gardez, vous le gagnez pas, mais au moins on a montré que nous, quand il y avait une injustice, et surtout nous, les sportifs, parce que ce sont les valeurs que nous, les entraîneurs, tous les jours, quand je suis devant mes joueurs, je dis, les mecs, on est une famille, Donc aujourd'hui, on parle de cohésion, on parle de collectif, on parle d'esprit d'équipe. Donc aujourd'hui, il y a un ami, il y a un frère qui est en difficulté, on va l'aider, on va le soutenir, on va le relever. Et donc là, ce que je suis en train de voir, et c'est vrai que malheureusement pour moi, mais à la limite, ça dénote un peu de plus en plus l'esprit qu'il y a dans le foot, chacun ne pense qu'à sa gueule, quoi. Et là, quand j'entends Claude Puel, quand j'entends, je crois qu'il y a eu donc l'entraîneur de Nîmes, je crois aussi, qui a dit, bon, c'est bien Antoine, c'est vrai qu'on comprend sa position, mais aujourd'hui, il y a une décision. Et là, pour revenir à Claude Puel, parce qu'il dit, donc, on reste en l'état actuel, il faut respecter les décisions donc, qui ont été prises au niveau de la Ligue. Okay. Par contre, lui, aujourd'hui, on a l'impression, c'est ce que j'ai pu comprendre, que Saint-Étienne, eux, avec par le biais d'Angremeyer, refusent, donc, disons, donc, on refuse de faire la finale de la Coupe de France, si c'est à huis clos. Par contre, Claude Puel, il dit, mais voilà, si on refuse, d'accord, mais nous, on veut quand même faire la coupe d'Europe. Et j'ai dit, mais c'est pas cohérent. Oui. Donc, c'est pas cohérent du tout. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on est trop centré sur ça. Ces problèmes, individuels, et puis surtout,
c'est
l'esprit, moi, qui me met en rage. Les gens égoïstes, les gens individualistes qui ne pensent qu'à eux.
Oui, mais bon, c'est vrai que Claude Puel, il en a, comme vous le soulignez tout à l'heure, en tant que combattant, des problèmes à Saint-Etienne. Alors, vous avez entraîné Toulouse cette saison avec Alain Casanova d'abord, et puis ensuite Denis Zanko qui vous a succédé. Donc, ça fait 3 entraîneurs en une saison. Il y en avait 8 sous la présidence de Olivier Sadran depuis 2001. Ce club qui devrait être racheté à 85%, Antoine Comboiré, par un fonds américain.
Oui, j'ai lu ça. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été donc on va dire sollicitées, parce que c'est le cas, on a entendu donc le groupe avec Olivier Létang donc à la tête, voilà. Il y a eu d'autres
là d'autres, c'est le Redbird Capital donc, Partners,
ça
c'est
exact c'est, oui, j'ai lu ça donc mais pour avoir une discussion donc avec Olivier Sadran, donc bien sûr que lui donc était bien sûr ouvert à la possibilité donc d'avoir de nouveaux investisseurs donc capables d'insuffler un coup de fouet dans ce club avec des investissements beaucoup plus importants.
C'est nécessaire, puis, voilà, parce que quand vous avez vécu cette expérience qui a forcément été difficile, mais elle a été pour tous les entraîneurs qui ont été à la tête de cette formation, qui était vraiment en grande difficulté jusqu'à la fin de ce championnat. De l'intérieur, quand vous y étiez, vous sentiez qu'il y avait besoin d'un nouveau souffle, que Olivier Sadran était peut-être arrivé au bout de quelque chose?
Oui, c'est le sentiment que qu'on a tous eu, parce que donc Olivier Sadran, donc de par ses affaires à la personnelle, donc avait concentré toute son attention bien sûr sur son business et le foot, alors bien sûr peut-être à travers les résultats, mais aussi donc peut-être pour lui donc une vision donc du foot, un état d'esprit du foot qui avait changé, donc voilà. Mais c'est vrai que lui était un peu plus en retrait, voilà. Donc étant un peu plus absent, c'est vrai que le club, on a eu le sentiment que ça devenait de plus en plus compliqué. Après, c'est pas une excuse, parce que par contre, il avait mis les moyens donc humains, les moyens donc financiers, les moyens donc humains pour réussir. Après, c'est nous, que ce soit donc les entraîneurs et les joueurs qui n'avons pas fait le boulot. Hein.
Voilà. Sylvestre.
Antoine, après les fonds d'investissement, vous qui êtes très centré sur l'humain, la solidarité et tout ça, on sait ce que ça donne. Ça peut être très bien quand il y a beaucoup d'argent et ça peut aider. Ça peut aussi vite tourner au fiasco et on s'éloigne des choses du foot, des gens intéressés par le foot. Est-ce que les multiplications de rachats par des fonds d'investissement, est-ce que vous pensez que ça peut être positif pour le foot?
Non, pour moi, très honnêtement, c'est pas l'avenir du foot. Malheureusement, c'est ce qu'on peut donc constater de plus en plus. Et quand vous avez des fonds d'investissement qui viennent dans le football, c'est que forcément qu'ils n'ont qu'une idée en tête, c'est faire de l'argent. D'ailleurs, ces dernières années, moi, ça fait pas moins de 20 ans que j'entraîne. J'ai fait 4 ans donc à la réserve, et réserve pro du PSG. Et ça fait 16 ans que je suis entraîneur professionnel. Et depuis 4-5 ans, j'entends parler donc du mot « trading », qui m'exaspère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Mais c'est la règle, c'est la loi. Et il faut savoir, donc, nous, en tant qu'entraîneurs, nous adapter. Sinon, ben, on est écarté. Sinon, on fait plus partie, donc, du business. Parce que aujourd'hui, vous l'avez vu, comment les clubs sont financés, les points les plus importants, ce sont les droits TV et les transferts. Transferts ou trading, vous appelez ça comme vous voulez. Mmh, et c'est vrai que, et les clubs aujourd'hui sont en grande difficulté, on l'a vu, là. C'est que, les droits TV ne sont plus payés, il n'y a plus les transferts. Je peux vous dire que là, pour le vivre, là, c'est que les clubs sont en grand danger aujourd'hui.
Au-delà, effectivement, de la crise actuelle, on voit qu'il y a structurellement aussi des clubs qui sont en difficulté. Et là, j'ai envie de vous faire parler peut-être de l'exemple de l'Olympique de Marseille, puisque aujourd'hui, on va peut-être perdre un entraîneur de la Ligue 1 qui a vraiment démontré qu'il apportait beaucoup à notre championnat, qui est André Villas-Boas. Est-ce que pour vous, sur la saison qui s'est écoulée, c'est tout simplement le meilleur entraîneur qui est sur cette saison?
Ah oui, mais incontestablement, Villas-Boas a fait donc avec son équipe, avec ses joueurs, avec son groupe, une saison fantastique. Vu la qualité de son effectif, aujourd'hui, il faut pas avoir peur des mots. Pour moi, Lyon est au-dessus sur le plan donc de la qualité de l'effectif. Voilà, il y a pas mal de Lille a un effectif aussi bon, voire meilleur. Je prends une équipe comme Rennes cette année avec une belle équipe. Voilà, donc il y a pas mal d'équipes qui avaient des effectifs bien meilleurs que Marseille, mais ils ont fait une saison fantastique. Et aujourd'hui, on constate, je veux dire, une aberration, quoi. Je veux dire, vous avez donc aujourd'hui un club qui va faire la Ligue des Champions. Donc, elle est supposée donc garder ses meilleurs éléments et surtout donc se renforcer pour l'année prochaine, faire un aussi bon championnat et surtout faire un super parcours en Ligue des Champions. Et vous constatez qu'ils sont condamnés, je dis pas dit obligés, ils sont pratiquement condamnés à vendre leurs meilleurs éléments, donc qui diminuent leur équipe, pour pouvoir faire un parcours en Ligue des Champions. Donc forcément que vous avez des joueurs qui sont aujourd'hui abattus, qui sont donc découragés, qui comprennent rien, qui comprennent pas, et puis surtout un entraîneur qui dit mais moi qu'est-ce que je fous là, quoi, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui va m'arriver l'année prochaine.
Alors, il le savait en arrivant. Alors après, il s'attendait peut-être pas à être deuxième du championnat et qualifié pour avec des champions. Il a fait du super boulot, on est tous d'accord là-dessus. Après voilà, la situation de Marseille, elle était quand même aussi un peu connue déjà l'année dernière, et malheureusement, comme vous dites, ils sont condamnés à le faire. Il y a pas le choix. C'est même pas qu'ils voudraient pas aider à renforcer l'équipe ou garder Villas-Boas. Je pense qu'ils ne peuvent pas. Antoine,
on parle déjà, Antoine, d'un départ de 8 ou 9 joueurs à l'Olympique de Marseille, dont Rongier, qui est arrivé l'été dernier.
Non, mais c'est pour moi, c'est une catastrophe pour ce club, parce que en plus, on connaît donc l'environnement, on connaît donc les supporters donc de Marseille. Ils ont retrouvé donc voilà, coup à la victoire, ils ont retrouvé de la fierté donc pour ce club, pour toute une région. Et vous leur dites l'année prochaine, on va avoir une équipe, une équipe B pour non seulement lutter pour le championnat, ce qui va être très compliqué, mais surtout aller sur le championnat où vous risquez de prendre des déculottés, donc voilà, en rafale.
Et vous, Antoine, par exemple, si Villas-Boas s'en va, c'est intenable pour le nouvel entraîneur. Vous l'accepteriez, vous, le challenge?
Non, mais après, il ne faut pas poser. Parce que, vous savez, aujourd'hui, Villas-Boas est toujours l'entraîneur de l'OM. Et je peux vous dire qu'il a raison de défendre ses intérêts. Aujourd'hui, il a fait un énorme travail, un super boulot, et pas tout seul, hein, avec son staff et grâce aux joueurs, parce que ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, mais c'est tout le travail qu'ils ont en amont qu'ils ont mis en place. Mais donc aujourd'hui, tu ne peux pas donc partir en laissant donc voilà, je veux dire, cet outil là qui est redevenu donc une belle dame, quoi. Voilà.
Ouais. Antoine, est-ce que tout ce qui se passe au niveau du foot français, ça vous donne envie de retrouver un banc malgré tout?
Mais moi, c'est pour ça que je mesure les difficultés donc que chaque entraîneur rencontre, et chaque club a j'allais dire sa spécificité. En ce qui me concerne, moi, c'est ma passion, c'est d'entraîner, c'est de me retrouver donc dans des groupes, voilà, mettre en place des stratégies, donc mettre en place donc un travail pour pouvoir donc aller jouer donc pour certains clubs, donc les objectifs c'est le maintien, pour jouer donc le milieu de tableau, peu importe, pour jouer l'Europe. Mais voilà, ce que j'aime, moi, c'est de me retrouver donc au milieu donc de ce groupe, et puis voilà, construire donc une méthode de travail, et puis surtout aller ensemble, aller chercher des victoires.
Et pour construire
après le reste, on sait que c'est compliqué.
Antoine, souvent, il faut quand même être là dès le début de saison. Vos deux dernières expériences, que ce soit avec Dijon ou Toulouse, vous êtes arrivé en cours de saison. Est-ce que c'est quelque chose que vous referez, ou est-ce que c'est trop fatigant?
Alors à Dijon, voilà, ça s'est couvert de succès, parce qu'à la fin, donc même si ça a été très compliqué, très long, on a réussi donc à nous maintenir. Pour Toulouse, c'est vrai que la déception pour moi, c'est que, je suis sérieux, vous l'avez dit, j'ai fait 13 journées, il restait quand même donc tous les matchs retour, 19 matchs retour, et donc j'ai été démis de mes fonctions, donc j'ai toujours respecté les décisions donc des dirigeants, mais c'était ma pointe de déception. Donc je n'ai pas pu aller au bout de mon travail. Et donc aujourd'hui, de constater que Toulouse va très certainement donc descendre en Ligue 2, voilà, c'est un constat d'échec, même si je n'ai pas donc fini la saison avec le club.
Éric Silvestro.
Antoine, retrouver un banc, ça sera aussi peut-être le seul moyen d'être sur un terrain de foot et de voir du foot, parce qu'aujourd'hui le huis clos est généralisé, ça pourra peut-être durer des mois, voire une saison complète. C'est pas le foot évidemment qu'on aime, c'est pas le foot que vous aimez. Être sur le banc et pouvoir être acteur du foot, ça sera aussi important, parce que sinon il y aura pas de foot du tout pour vous, par exemple, enfin hormis à la télé. Ah.
mais pour moi, donc aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que forcément que les clubs sont en situation financière très difficile. Donc repartir pour ces clubs-là, oui, mais certainement donc avec les entraîneurs qui sont en place, parce que vous savez que dans nos métiers, la seule façon pour retrouver du travail, c'est qu'il y ait des places qui se libèrent. Donc je pense que ça va être un peu plus compliqué pour le début de la saison prochaine.
Mais vous êtes solidaire, voilà. Vous n'allez pas être gourmand.
Oui, tiens, on parle beaucoup de la solidarité des joueurs.
Il ne s'agit pas de ma situation, parce qu'aujourd'hui, ce sont donc comment vont repartir les clubs, et surtout donc quelles sont les décisions qui vont être prises par l'exécutif, parce que c'est eux qui aujourd'hui décident, et c'est tout à fait normal. Est-ce que donc le championnat va reprendre à huis clos? Est-ce que le championnat va reprendre et peut-être avec un nombre limité donc de spectateurs? C'est aussi une possibilité, voilà. Et est-ce que pourquoi pas donc le championnat reprendra justement avec aussi donc des stades pleins? On n'en sait rien.
Antoine, il y a un de vos amis les plus proches, hein, Laurent Blanc, qui revient un petit peu à la surface pour chercher un club. Ça fait quand même quelques années qu'il n'a pas entraîné. Est-ce que vous avez une intuition, une idée, sans nous dévoiler évidemment des secrets, si Laurent Blanc va retrouver un banc la saison prochaine en France ou à l'étranger plus sûrement?
C'est vrai que c'est mon ami. C'est vrai qu'on passe du temps ensemble. Et c'est vrai que aujourd'hui, il a très 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 envie de reprendre donc le chemin, j'allais dire le chemin de l'école, quoi, et retourner donc sur un banc. Ça, il a des fourmis dans les jambes, voilà. Mais c'est vrai que il a pas pour l'instant donc les projets.
Il s'est rapproché de Jorge Mendes, un agent qui peut l'introduire peut-être petit peu mieux dans les clubs étrangers.
Ce sont des nouvelles que pouvait vérifier, mais c'est ça. Oui, c'est la preuve que ça fait, il attaque sa cinquième année, oui, sans travailler, sans entraîner, et voilà, pour avoir des discussions, pour voilà, être ensemble. Il a donc des fourmis dans les jambes. Il aimerait donc retrouver donc un projet, mais c'est vrai que lui, dans son esprit, c'est retrouver un projet où il a la possibilité donc de jouer la gagne. Donc il y a peu de clubs, ou sinon donc les gens.
Et il y en a d'autres qui attendent, hein, Pochettino, Allegri, et qui n'ont pas attendu 5 ans sans entraîner.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est que les places sont très très chères, il y a du monde sur le marché, et c'est très compliqué. Et surtout, je pense que vous avez compris quand on a parlé donc de trading, on a parlé de réseau à travers ça, c'est que les fonds d'investissement qui viennent donc mettent en place aujourd'hui les directeurs sportifs, et c'est souvent les directeurs sportifs qui décident du choix donc de l'entraîneur, pour pouvoir mettre en place des politiques justement pour mettre en lumière des joueurs, et souvent des jeunes joueurs, pour pouvoir donc justement vendre et avoir des transferts.
Merci Antoine Comboire, et ça passe vite, hein, avec vous le temps. On se souvient évidemment de vous comme un grand joueur, un grand entraîneur également au Paris Saint-Germain et au Ciel en avant Guingamp. On se retrouve dans quelques instants après les infos avec Éric Silvestro, Philippe Sanfourche d'RTL, Baptiste Durieux pour relayer les pensées des auditeurs, leurs avis, et puis évidemment Florian Gazan et Sébastien Tarago de l'équipe. À tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Florian Gazan, Sébastien Tarago de l'équipe, avec Silvestro et Philippe Sanfourche d'RTL, et puis Baptiste Durieux qui se fait le porte-parole des auditeurs sur les réseaux sociaux, et également des auditeurs que nous entendrons dans quelques secondes, dont Jean-Baptiste qui travaille pour le site lesviolets.com, qui est supporter de Toulouse. On a entendu Antoine Comboire. Florian Gazan, un petit mot sur ce que a dit Antoine.
Bon, ben Antoine Comboire, en fait, il est l'homme, et comme on connaît, c'est le joueur comme on connaît l'entraîneur.
Généreux.
C'est extrêmement généreux, qui pense aux autres, même si parfois ses pensées sont peut-être un petit peu orientées. Je pense qu'il serait content que Toulouse, notamment, se maintienne en Ligue 1, étant donné qu'il n'a pas forcément beaucoup aidé à y rester. Mais non, petite parenthèse, mais non, mais je trouve ça bien ce qu'il a dit. Après, bon, il y a un côté un petit peu John Lennon, Imagine, voilà. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. On sait très bien que malheureusement, le football ne fonctionne pas comme ça aujourd'hui.
Sébastien Tarago, l'équipe.
Non, moi, après, je suis d'accord avec lui sur l'injustice que vit Amiens. Je trouve ça absolument scandaleux. scandaleux. Après, il faut par transparence quand même rappeler que son fils Antoine, est directeur administratif du club d'Amiens. Donc voilà, ça ne veut pas dire que c'est pour cela qu'il se positionne ainsi, mais c'est normal de le rappeler. Voilà, c'est aussi, il faut dire que Claude Puel n'a pas dit qu'il ne jouerait pas la finale de la Coupe. S'il n'y avait pas de spectateurs, c'était plutôt
Roland Romeyer,
ouais. Et que lorsque Claude Puel s'est exprimé, il a plutôt dit l'inverse. Mais sinon, voilà, moi je suis entièrement d'accord avec lui sur l'injustice que vit Amiens. Je trouve ça vraiment incroyable.
Alors, on a Jean-Baptiste, supporter de Toulouse, parce que là aussi on parle d'injustice pour un club quand même qui a été dernier quasiment de bout en bout, Jean-Baptiste.
Ah oui, bah je pense que sportivement, en tout cas, c'est mérité la descente en Ligue 2.
L'injustice, c'est en Ligue 1. Hein.
je peux pas vous dire le contraire. Nous, ce qu'on réclame chez les supporters, c'était du profil bas. C'est-à-dire, c'est que si évidemment que pour un club, on est supporter de Toulouse et il vaut mieux être en Ligue 1, surtout après un rachat où on sait que en Ligue 2, on va pouvoir y rester plusieurs années. Éventuellement, on voit des Nancy, on voit des Caen, des Guingamp qui cette année ont galéré en Ligue 2. Donc la remontée immédiate en Ligue 1, elle est pas faite du tout. Donc si par entre guillemets bonheur, la justice nous offrait un maintien sur tapis vert en Ligue 1, on prend. Mais je pense que vu la situation du TFC, vu la saison catastrophique que Comboiré, Casanova et ses hommes nous ont offert. Et vu la dynamique du club depuis, alors on va prendre les 5 dernières années, mais moi je prendrais presque la dernière décennie. Je pense que la descente en Ligue 2, elle est logique. Ouvrons un nouveau chapitre en Ligue 2. Le club va être vendu dans les prochaines semaines normalement. C'est une bonne occasion pour redémarrer un nouveau chapitre sur de nouvelles bases.
Jean-Baptiste, c'est quoi le regard des supporters? Il y a une grande page, même double page dans la Dépêche du Midi aujourd'hui. Le regard sur le rachat de Toulouse par des investisseurs étrangers, c'est inquiétant, c'est une bonne nouvelle. C'est on est là pour faire de l'argent.
Je crois qu'il faut qu'on reste positif parce que le départ de l'organigramme et de la direction actuelle du TFC, il était réclamé par quasiment 99% des supporters depuis des mois, voire des années. Donc je pense que c'est accueilli de façon positive. On voulait des départs, on voulait du changement. C'est fait, puisque aujourd'hui, avec cette direction, on a atteint des summums de nullité cette saison. Après, effectivement, le projet qui, pour l'instant, semble se dessiner, on est toujours un peu circonspect quand on voit notre voisin bordelais, quand on voit certains rachats qui se passent pas très très bien, on se dit, oula, à quelle sauce on va être mangé? Il y a eu le projet de Tien Li, l'ancien propriétaire de Nice, qui s'est proposé de venir au TFC. C'était un projet similaire à celui a priori des Américains, et Sadran préfère celui des Américains. Après, moi, ce qui me rassure un petit peu, c'est qu'Olivier Sadran, le président actuel du TFC, va garder 15% des actions du club, et je trouve que c'est un gage de, entre guillemets, de garantie et de stabilité, parce que si les choses tournent mal, il sait très bien que les supporters et les médias se tourneront aussi vers lui, il sera toujours au club, alors certes avec un regard minoritaire.
Oui, mais ça fait pas beaucoup, 15%.
Oui, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Il aurait pu dire, voilà, allez, salut les cons, je m'en vais. Or non, il reste quand même dans le club, et donc c'est quand même une certaine garantie, et je pense qu'il a confiance en un minimum en ce projet, même pour rester minoritaire.
Ben merci Jean-Baptiste de cet éclairage, de cette opinion. Un petit mot, Philippe Sanfourche, sur Toulouse, le rachat de Toulouse. On a parlé avec Antoine, avec Jean-Baptiste. On a vu Bordeaux qui va un peu dans le flou. Bon, alors on dit toujours, quand ils rachètent, on dit toujours, mais attendez, ça va être génial parce qu'ils s'occupent du baseball, ils connaissent le basket, le soccer, le foot américain. Mais enfin,
dans ces cas-là, on sait toujours ce qu'on perd, on sait pas ce qui arrive et ce qu'on va gagner. Moi, je trouve que cet engouement, finalement, assez récent sur les dernières années, de beaucoup d'investisseurs, notamment américains. En fait, il faut toujours chercher ce qu'il y a derrière. Parfois, c'est pour des opérations immobilières, financières, c'est pour une implantation locale avec des entreprises. On a vu par le passé que ça ne se passe pas toujours exactement comme c'est prévu au départ. Même, je me souviens de l'époque PSG Colonie Capital. Finalement, ils en sont ressortis. Le club avait plutôt été fragilisé qu'autre chose.
Ils n'ont pas eu leur projet
immobilier. On voit avec Marseille que c'est difficile, que ce club perd beaucoup d'argent aujourd'hui. On voit à Bordeaux, on ne sait pas du tout quelle est la stratégie. Comme je me souviens quand même au moment du rachat, l'arrivée des investisseurs, au moment du rachat, de dire on est là pour 10 ans, peut-être 5 ans. Enfin, je veux dire, c'était à échéance extrêmement courte.
C'était plutôt 5. Hein.
Plutôt 5 même, d'ailleurs, quand on grattait un peu. Donc en fait, voilà, chaque cas est individuellement différent. J'ai plus confiance aujourd'hui dans l'investissement qui est fait à Nice, par exemple, que dans ce qui se profile à Bordeaux. Et Toulouse, j'attends de voir, quoi. C'est quand même, il y a beaucoup d'interrogations.
C'est très différent parce que
Sébastien
Nice,
Tarago, l'équipe.
Pardon.
C'est une fortune.
À Nice, c'est un milliardaire. Voilà. Et Monaco, on peut critiquer le projet, mais ça fera bientôt 10 ans que Ribolovlev est là, le président Ribolovlev. Et mine de rien, ça commence à peser. Il a mis de l'argent, certes. Après, il y a un projet qu'on peut contester, un projet sportif.
Mais qu'il a toujours
moins
annoncé.
Mais au moins, c'est solide. À Nice, c'est pareil, tu as tout à fait raison. Quand ce sont des fonds d'investissement, c'est différent. Des fonds d'investissement, ils sont là pour gagner de l'argent.
Mais c'est pas leur argent surtout. Donc, c'est pas leur argent, c'est des
gens. Ils gèrent l'argent des autres.
Non, mais c'est voilà, ils gèrent là, Redbird, ils gèrent 100 millions de dollars. Mais c'est pas leur argent à eux. Eux, ils doivent rendre des comptes aux gens qui ont placé cet argent, ils doivent en gagner. Donc c'est pas du tout la même. À Nice, effectivement, il fait ce qu'il veut. C'est ça. On peut dire vraiment que c'est une danseuse. Ribolovlev, il avait peut-être des intérêts aussi, mais on peut dire que c'est sa danseuse, c'est son. Voilà, il peut s'acheter une bagnole, il s'est acheté un club. Là, c'est différent. Là, il y a des objectifs de résultats. On a vu à Bordeaux, c'est très nébuleux, ils étaient deux, ça part un peu en cacahuète. Là, on se demande pourquoi ils viennent à Toulouse. C'est sympa comme ville, certes.
Voilà, mais il y a deux choses qui sont gênantes.
C'est que tu te dis,
comment tu vas gagner de l'argent en foot à Toulouse?
Parce que,
comme on l'a dit, les fonds d'investissement, ce sont des gens qui viennent placer des billes pour gagner de l'argent. Ils sont, je ne sais pas combien, au conseil d'administration ou d'actionnaires. Et ils ne verront jamais, sans doute, en tout cas pour la plupart, un match de Toulouse. Donc c'est vraiment de l'investissement pur et dur. Gagner de l'argent dans le foot, quasiment personne n'en gagne dans le foot. C'est très rare de gagner vraiment de l'argent.
Jean-Pierre River en a gagné.
Oui, mais c'est quand même assez rare. Donc là, tu te dis pourquoi. Et puis après, ce genre d'investissement, si au bout de 5 ans ça rapporte rien, ben le joujou, merci, au revoir, et hop, on le laisse de côté. Et donc, c'est difficile les perspectives pour un club comme Toulouse avec un rachat par un fonds d'investissement.
Mais après,
je leur souhaite le meilleur.
Espérer gagner de l'argent. Tu peux toujours espérer gagner de l'argent. Parce que sur un club comme Toulouse, tu peux très bien arriver, espérer former 2-3 ou acheter des joueurs en post-formation que tu vas revendre très cher plus tard. Ce ne sont pas des clubs qui nécessitent des investissements toujours très lourds en masse salariale. Donc, tu peux espérer gagner de l'argent. Je pense que c'est très dangereux. Moi, je n'y mettrai pas mes sous. Mais j'aurais
pourtant
pas assez non plus.
Mais
je pense que tu peux avoir cet espoir-là.
Baptiste Durieux, des réactions sur les réseaux sociaux par rapport à Toulouse.
Bien sûr, message de Ronan. Ça me désole le nombre de critiques envers le probable rachat du club. Certes, c'est pas un investisseur local et la stratégie sera peut-être pas basée à 100% sur du sportif, mais on a enfin du changement au club. Attendons un peu. Puis le message d'Alexandre qui est un petit peu moins optimiste. Je dis ça avec beaucoup d'amour et de respect. Mais s'il y a bien un club qui ne devrait pas faire appel de quoi que ce soit, c'est bien le TFC. Dernier avec 13 points en 28 matchs, à 17 points du 17e. Ric-rac depuis 5 ans, tu descends en Ligue 2, tu l'acceptes et il rajoute « Gagner de l'argent avec le TFC, bon courage ».
On se retrouvera dans quelques instants après la pub. On fera un petit point avec un supporter de Toulouse pour terminer cette page toulousaine de ce soir dans On refait le match jusqu'à 20h. Nous parlerons du football étranger, bien sûr, le gouvernement espagnol qui autorise la reprise à partir du 8 juin. La France, ce sera le 22 et le 23 août, mais c'est pour la saison prochaine. Et puis les coupes qui devraient se jouer début août. Des joueurs du PSG aussi qui ne veulent pas baisser leur salaire. Nous sommes avec Sébastien Tarago de l'équipe, Florian Gazan, Eric Silvestro et Philippe Sanfourche d'RTL. À tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h avec Sébastien Tarago de l'équipe, Florian Gazan, Philippe Sanfourche et Eric Silvestro d'RTL. Nous avons Nabil, supporter de Toulouse, qui est avec nous. Nabil, bonsoir. Votre regard sur ce qui se passe à Toulouse actuellement.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir à Daniel, à tout le monde. Je le regarde tous les soirs en plus.
Pas de Damien non plus, mais on va y arriver. Sébastien Tarago, Eric Silvestro, Florian Gassin, Philippe Sanfourche.
Allez Bernard, on y va.
Désolé.
Allez,
c'est pas. Allez-y Nabil.
Désolé. Non, mais en fait, moi je voulais revenir un peu sur ce qu'avait commencé à enclencher Sébastien, sur le fait que ce fonds d'investissement, en fait, ils sont venus pour quelque chose. Ils sont pas venus parce qu'ils se sont dit c'est Toulouse, c'est la ville rose et on va venir voir si c'est bien rose ici. Non. Moi, je pense à une chose, parce que je suis Toulouse depuis très très longtemps.
Ouais.
Et là, je me dis, en fait, que si tu regardes bien, hormis les équipes majeures, c'est-à-dire la Ligue 1 qu'on avait, les féminines et ainsi de suite, et les seniors, on va dire, les autres catégories, ça marche bien. La preuve en est, l'an dernier, on est finaliste de la Gambardella, en sachant que sur les 10 dernières années, Toulouse a atteint ce niveau-là de finale de Gambardella 2 fois. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a un poste de formation qui est bien. Et la preuve, c'est que jusque les 2-3 dernières années, on faisait de la formation, on vendait très bien nos joueurs. La preuve en est, je peux te citer une vingtaine de joueurs où tu ne pourras pas me dire le contraire.
Bah, Damien, il ne dira pas le contraire.
Capon, Capou, enfin tous ces joueurs-là. Donc moi je pense que ce fonds d'investissement, ils sont venus pour une chose. Ils sont venus pour le post-formation, pour essayer de faire parce qu'on est on est à Toulouse ici, on n'est pas à Dunkerque, enfin, même si j'ai pas de
Dunkerque, qui sont ils sont pas mal non plus en France.
Ouais, c'est la quatrième ville de France, je veux dire. Et puis ici, on a de toutes petites entreprises, comme Airbus, par exemple. C'est très petit, tu vois, mais je pense que s'ils sont venus...
Ça décolle mieux que le club, hein.
Ouais, je veux dire, s'ils sont venus, c'est, je pense, pour faire... Alors, ça veut dire une chose, et je vais rassurer tous les supporters de Toulouse, ce soir, on n'est pas prêt de voir Toulouse en Ligue 1 avant de très, 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 très nombreuses années.
Ah, on va tourner, Nabil, parce qu'il y a Mike qui nous attend, supporter de Toulouse également. Mike est avec nous. Bonsoir. Merci, Nabil.
Ouais, bonsoir, Denis.
Bonsoir, Mike. Denis. Bonsoir. Votre réaction donc sur tout ce qui se passe autour de Toulouse actuellement, rapidement.
Eh ben, très rapidement, on va bien sûr se faire racheter. Ça, c'est une très bonne nouvelle. J'ai entendu beaucoup de gens taper sur Sadran, notamment le coach Camboire qu'on a entendu tout à l'heure, qui a fait vraiment, à mon sens, aucun mea culpa. Il est resté, comme il a dit, je crois 13 matchs. Hein, je crois qu'il a fait 3 victoires, je crois.
Deux
victoires, voilà. Ça a été catastrophique. Au stadium, on voyait son visage, il était complètement perdu. On ne sait pas pourquoi il est venu. Et ça c'est quelque chose qui reste en travers la gorge. L'épisode Camboire. Personnellement, moi j'ai rien contre Antoine Camboire. C'est très bon joueur, très bon coach. Écarté d'une manière injuste au PSG, mais là franchement on ne sait pas ce qu'il est venu
faire. Mais sur l'avenir, Mike, vous êtes confiant, vous êtes inquiet au niveau sportif Toulouse?
Alors,
en Ligue 2, ça va remonter
alors,
vite.
Sadran, président Sadran, c'est quelqu'un qui connaît très très bien le business, tout le monde le sait. Il est là depuis 2001. Ouais. On dit là, on parle de finances, on ne peut pas faire d'argent avec le football, certes. Mais on peut surtout couler des clubs. Hein. Il y a beaucoup de clubs, notamment dans le sud de la France, qui sont dans la cagade, comme on dit chez eux, parce qu'ils sont très très mal gérés. Le TFC, c'est très très bien géré. Donc, je fais confiance à Sadran pour avoir trouvé le bon investisseur, je dirais. On est en train de faire le procès de ces Américains, des fonds de pension, voilà, cherchez le mot.
Fonds d'investissement, oui. On fait le procès parce que c'est pas génial comme solution, quoi. C'est pas à long terme.
Certes, mais il va falloir juste se souvenir de quelque chose. Il me semble que Liverpool, c'est un petit club, hein, un petit club du nord d'Angleterre, est géré par un fonds de pension. Donc, fonds de pension, ou pas fonds de pension, c'est pas ça la question. La question, dans le football et dans tous les business, c'est les hommes, les gens qui sont derrière, les gens qui prennent les décisions. Et si, aujourd'hui, ces gens, ces Américains, viennent avec monsieur Damien Comolli, biterrois d'origine, donc il connaît la région, moi, personnellement, je suis confiant.
Florian Gazan.
Je suis extrêmement confiant.
Il y a quand même petite différence entre Liverpool et Toulouse, me semble-t-il, et même ne serait-ce que pour un investisseur, c'est quand même plus sympa d'avoir les Reds dans son escarcelle que le TFC. Donc, je pense que c'est difficile de comparer. Le problème de ces fonds-là, c'est que c'est comme un tartare, ça peut être aller-retour. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de temps ils peuvent rester. C'est-à-dire qu'ils vous disent, on est là pour 5 ans, 10 ans, mais au bout de 2 ans ou de 10 mois, s'ils se rendent compte que ça ne se passe pas comme ils voudraient que ça se passe, ils repartent. Alors, on sait que le football, il faut du temps, il faut construire, il faut investir. Donc, c'est quand même des modèles extrêmement fragiles.
Merci. Ouais, allez-y, Mike. Ouais. On termine avec vous.
Non, je suis d'accord, mais là, on parle du Toulouse Football Club, on parle d'un club qui forme les joueurs. On a parlé de Capoué, Ben Yedder, etc., mais peu importe, il y a de la formation, il y a une école de foot derrière, on fait le procès du training, mais il va y avoir énormément de joueurs qui vont être vendus, ça, je vous le garantis, et peu importe ce qui va se passer, aujourd'hui, on repart sur une nouvelle ère, et croyez-moi, nous, les supporters toulousains, on en avait vraiment, vraiment besoin.
Merci, voilà. Mike, d'avoir été avec nous ce soir pour parler de Toulouse. Très bonne soirée. On va parler de l'Espagne pendant une petite dizaine de minutes. L'Espagne, le gouvernement espagnol, Philippe, qui a autorisé la reprise de son championnat à partir du 8 juin. Ça devrait recommencer le 12 par un derby FC Séville Bétis.
Oui, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est peut-être le prochain grand championnat qui va reprendre. On le sait, on l'a dit, la problématique est différente. On ne peut pas comparer avec l'Allemagne, qui est dans une situation sanitaire qui est bien différente. Et ce qui se pose comme question pour l'Espagne, comme ça s'est posé pour la France, comme c'est encore le cas pour l'Italie ou l'Angleterre, c'est que ça nécessite un protocole extrêmement lourd, avec notamment la mobilisation de beaucoup de tests, de laboratoires, et que ce sont des pays qui en manquent cruellement depuis le début de la crise. Donc c'est un vrai marqueur politique, en fait, parce que la décision a été prise, ça veut dire que tout ce qui va avec va être mené, et maintenant on va voir dans l'opinion publique, parce que c'est pas si évident, ça a beau être des pays de foot, on a toujours l'impression que tout le monde veut que ça reprenne, mais quand on fait des études très poussées dans toutes les strates de la population, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques sur la nécessité de pouvoir reprendre et la faisabilité des choses. On le voit en Angleterre en ce moment, on a l'impression que l'Angleterre se rapproche un petit peu dans son approche de la problématique France. De la France.
Ouais, tout à fait.
Mais attention, en Allemagne, Sébastien Tarago, les sondages d'opinion les plus récents montraient que la population était contre le
retour. Aussi, oui. Alors que la mise en place est plus facile et aisée que dans ces pays-là.
Eric Silvestro, un regard sur la reprise en Espagne, parce que l'Espagne quand même a été très sévèrement touchée.
Ce qui va être intéressant, c'est que là on est dans un profil. Philippe disait tout à l'heure, l'Allemagne c'est pas pareil, il y a eu moins de cas, ça a été une politique différente, etc. Là on est dans un pays, on va dire, relativement proche de la France en termes de mentalité latine pour certains, en termes de nombre de morts et de nombre de cas de coronavirus. Donc là, on va avoir on va dire quelque chose de plus parallèle pour comparer. Moi, je reste persuadé qu'en France, quand même si ça fait bondir quand la ministre a dit ça, le sport n'est pas prioritaire dans l'esprit des gens et qu'on a peut-être que sanitairement on aura raison à l'arrivée, mais en Espagne on fait un autre choix. Ce sera le cas pour le tourisme aussi. Les Espagnols ont déjà annoncé que les frontières allaient être ouvertes, qu'il n'y aurait pas de quarantaine, etc., parce qu'il faut absolument sauver le tourisme, parce que c'est important. C'est peut-être un gros risque, mais en tout cas c'est un choix. Et pour le foot, c'est un petit peu pareil. Il y a sans doute quand même une pression économique en Espagne qui est différente des clubs de foot français.
Même populaire.
Et populaire. Mais après, l'opinion peut se retourner au niveau populaire. En revanche, au niveau du poids du Barça ou du Real, je pense que c'est différent de poids des clubs de foot qu'il y a en France. Donc là, ça va être vraiment intéressant parce qu'on va avoir un vrai parallèle.
Le Portugal aussi qui va recommencer le 3 juin.
Moins touché aussi, le Portugal.
Moins touché, effectivement. Le moins touché peut-être de ces pays-là méditerranéens. On se retrouve dans quelques secondes après la pub. Nous parlerons de Laurent Blanc, bien sûr. Et puis nous continuerons avec le football étranger. Les dates fixées pour la saison prochaine en France avec les coupes qui devraient précéder la réouverture du championnat 2020-2021 le 23 août. Nous sommes sur RTL ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.
RTL, on refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h avec Philippe Sanfourche, Eric Silvestro d'RTL, Sébastien Tarago de l'équipe et Florian Gazan. Nous sommes en train de parler de l'Espagne qui va reprendre son championnat à partir du 8 juin, le 12 très certainement par le derby de Séville. Tony, supporter de l'Atlético de Madrid, spécialiste du foot espagnol dans l'émission Les Réservistes, est avec nous. Tony, bonsoir. D'abord, votre regard, c'est un soulagement, c'est un bonheur, c'est à huis clos. C'est quoi votre sentiment?
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Avant toute chose, moi, je prends toujours du plaisir à revoir du foot, mais il y a une petite dose d'inquiétude, honnêtement. Moi, quand je regarde le principe de précaution qui est pris en France, je sais pas si j'ai vraiment envie de voir du foot. Voilà, mais je suis toujours très content de voir des équipes que je suis, des joueurs que je connais bien mieux que ceux de Bundesliga, donc ça me fait quand même plaisir que ça reprenne, évidemment.
Mais pour vous, il y a un risque, donc?
La difficulté pour moi, c'est qu'on compare les situations entre championnats. Vous en avez parlé avant la publicité pour dire, là, on va être dans un pays latin qui a été durement touché par le coronavirus aussi. Pour moi, même s'il se passe rien et que ça se passe bien pour l'Espagne, on pourra pas dire que le principe de précaution mis en France était une mauvaise idée. Voilà, c'est tout ce que je veux dire pour moi, en fait.
Eric Silvestro, RTL.
Oui, je suis d'accord avec ça. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est le côté, on choisit où est-ce qu'on met le principe de précaution. Très honnêtement, en France, quand vous voyez aujourd'hui, depuis le déconfinement, il faut bien relancer l'économie à un moment ou à un autre, il faut bien que les gens retournent travailler, il faut bien reprendre une activité. Et franchement, moi, je vois des endroits où, là, je suis affolé parce qu'il n'y a aucune distanciation sociale, parce que les gens ne mettent plus de masque, parce qu'il y a énormément de monde au même endroit. Et je parle pas que des transports, ça peut être dans des zones commerciales, ça peut être dans des parcs, ça peut être où on veut. Et dans ces cas-là, je me dis, pourquoi le football serait interdit? Pourquoi on peut pas empêcher, pourquoi on empêche les joueurs de faire leur métier dans des conditions extrêmement strictes? Parce que chez les professionnels, ce qui serait mis en place serait très strict, et comment on peut laisser tout le reste fonctionner.
Donc, parce que c'est moins important. Bah, il y a une gradation dans l'importance des activités, des secteurs.
Mais donc ce n'est pas sanitaire, la réflexion.
Et puis tu as aussi un débat politique autour de tout ça. D'accord. C'est-à-dire que tu envoies des messages. Quand tu as tout le secteur de l'hôtellerie, de la restauration qui est sur le carreau, et qu'à côté tu fais repartir du sport de haut niveau, tu envoies un message. Est-ce que c'est un vrai message ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il peut être perçu comme tel.
Politiquement, je tiens le même discours pour les restaurateurs, d'ailleurs, qui, je me mets à leur place aujourd'hui. Bah, les mecs doivent être fous et doivent se dire, mais quand je vois des millions de gens dans la rue qui sont collés les uns aux autres et tout, et qu'après on te dit, toi, ton restaurant, tu peux pas l'ouvrir, même si tu mets 3 mètres entre chaque table, et ben les mecs doivent pas comprendre. Et pour les footballeurs, pour moi, c'est la même chose. Soit tu dis, on peut rien reprendre, soit tu décides en effet des secteurs d'activité, mais dans ces cas-là, tu l'annonces clairement. Tu peux pas dire, parce que sanitairement, on peut pas jouer au foot. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Mais c'est pas que ça, Eric. D'abord, je pense qu'en termes de contact, il y en a quand même beaucoup moins dans un restaurant que sur un terrain de foot, normalement.
Enfin, les restaurants sont fermés aussi. Hein.
T'es pas censé toucher le serveur. Mais non, mais je veux dire par là que c'est aussi ce que ça mobilise sanitairement. C'est tout ce que ça va mobiliser pour pouvoir rejouer au football, tous ces tests, tout cet argent. Tu te dis que proportionnellement à tout ce que ça va demander comme moyen par rapport à d'autres secteurs, il peut y avoir un côté un petit peu indécent de se dire, voilà, il va falloir faire des tonnes et des tonnes de tests, tout ça, pour jouer au foot, qui est quand même pas non plus une activité majeure et essentielle et vitale, c'est tout.
Là, d'accord, mais tu l'expliques comme ça, c'est pas comme ça qu'on nous le présente.
Baptiste Durieux, les réseaux sociaux.
Oui, le message de Johan, c'était tellement serré entre le Real et le Barça cette saison. Oui, on a envie que ça reprenne. Et surtout, le foot en Espagne, il n'est pas le foot en France, mais reprendre dans les conditions, dans les mêmes conditions que l'Allemagne, non merci. Nous, Johan, on rappelle aussi demain de nous contacter, chers auditeurs, la page du direct RTL.fr et le compte Twitter, évidemment, RTL Foot. Tous vos messages, ou du moins les meilleurs, seront relayés.
Merci Baptiste Durieux et merci à Tony qui est toujours supporter de l'Atlético Madrid, spécialiste du foot espagnol dans l'émission Les Réservistes. On va pour conclure sur le foot étranger, Philippe Sanfourche, la Première Ligue, le conseil médical de la Première Ligue qui estime qu'il y ait une possibilité, il y a une possibilité de jouer pendant 12 mois à huis clos.
Oui, bah il est évident que il y a une crainte qui est logique et qui est légitime. Imaginez 30 secondes que vous repreniez le foot et que derrière vous faisiez rentrer des supporters, des spectateurs et que vous avez une reprise de la pandémie et qu'elle vienne par le foot et que ce soit démontré, ce serait absolument terrifiant. Donc c'est effectivement un principe de précaution. Maintenant, ça pose la question de est-ce qu'on a envie durablement de voir ce foot-là, quoi. On s'aperçoit que
c'est ça.
Dans de nombreux pays, les associations de supporters font savoir que, qu'en fait, ils n'ont pas envie de reprendre ce foot-là, ça les intéresse pas. Évidemment, ils en sont exclus. Oui. Je veux dire, c'est un football qui est dégradé, qui est dévalué, et va se poser après la question de la valorisation de ce football. Est-ce que les sponsors, est-ce que les diffuseurs télé vont avoir envie d'honorer des contrats à un certain niveau quand ils les avaient signés? Moi, je serais pas étonné qu'il y ait beaucoup d'affaires de dévaluation de contrats dans les mois qui viennent.
Sébastien Tarago, l'équipe.
Alors, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Philippe. C'est évident que les entreprises vont vouloir moins payer. C'est logique. On peut aussi parler de Mediapro, qui arrive avec 1 milliard sur la table. Mais si le produit n'est plus le même que celui qui a été vendu, on peut évidemment s'interroger. Et c'est normal. Mediapro, aujourd'hui, ils vont vendre un abonnement à 25 €. Ils ont besoin de plusieurs millions d'abonnés pour être rentables. Le foot à huis clos, je ne sais pas si ça marchera. Il y a une inconnue. Et en tout cas, ce n'est plus le même produit. Ce n'est pas un joli mot quand on parle de sport, mais bon, c'est comme ça. Ce n'est plus le même produit. Donc c'est normal qu'il se retourne contre la Ligue et contre ce qui a été signé. C'est logique.
Si on veut être cynique, comme il n'y aura personne dans les stades, Mediapro aura peut-être plus de gens qui s'abonneront, puisque le seul moyen de regarder les matchs,
sur le long terme.
Mais heureusement, ils les écouteront à la radio parce qu'ils vibreront comme ça.
Teddy, supporter du Real Madrid, est avec nous, passionné du foot espagnol. Votre regard également sur cette reprise qui se profile.
Bonsoir messieurs, moi je suis comme mon ami Tony, assez content de revoir le foot revenir en Espagne et le Real évidemment. Après c'est sûr que les matchs à huis clos c'est compliqué à regarder. Je pense que le niveau physique des joueurs aussi va poser problème à un moment donné. Mais je suis très content de revoir le Real, le foot espagnol et c'est vrai que le championnat est très serré. Et pour revenir pour la comparaison sur la France, il y a une culture foot je pense bien plus présente en Espagne qu'en France. Et les clubs espagnols en général et pas mal de joueurs majeurs aussi se sont mobilisés pour dire qu'il fallait que le foot reprenne en Espagne. Donc, contrairement peut-être en France où pas assez de joueurs peut-être se sont mobilisés pour reprendre le championnat.
Merci beaucoup, très bonne soirée à vous. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite d'On refait le match. Nous parlerons des prochaines dates du football français. Nous parlerons également des joueurs du Paris Saint-Germain qui n'ont pas et qui ne veulent pas baisser leur salaire. Et puis de Laurent Blanc qui se rapproche de l'agent Jorge Mendes pour retrouver peut-être du travail après quelques années d'absence. Nous sommes jusqu'à 20h ensemble avec Florian Gazan, Sébastien Tarago de l'équipe, Eric Silvestro et Philippe Sanfourche d'RTL. À tout de suite.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
Avec Sébastien Tarago de l'équipe, Florian Gazan, Eric Silvestro et Philippe Sanfourche d'RTL jusqu'à 20h. Sébastien Tarago, vous resterez jusqu'à 20h.
Avec plaisir. Il manquait plus que ça. Je vous ai pas
peut-être
vu depuis deux mois. Vous
savez,
je vous m'avais manqué, hein, tous.
La coupe, les coupes, Philippe Sanfourche, devraient encore conditionnel se jouer PSG Lyon le 1er août, Coupe de la Ligue finale, et puis PSG Saint-Etienne le 8 août au Stade de France à huis clos. Normalement, Philippe Sanfourche, une réaction sur ces dates, hein, déjà. Ça approche.
On sait que de toute façon, en ce moment, il y a un homme fort dans le foot français plus que jamais, c'est Noël Le Graët. Ouais. Et qu'à partir du moment où il l'a décidé au départ, tout va être mis en œuvre pour que ce soit le cas. On peut se poser après la question, effectivement, de ce jusqu'au boutisme, de vouloir absolument terminer ces coupes alors qu'on a pris très peu de temps pour embrayer sur la décision du gouvernement et d'arrêter le championnat. Mais bon, il y a aussi il y a des droits télé à faire rentrer.
Mais sur le lieu.
Beaucoup d'argent pour la Fédération française.
Sur le lieu, c'était pas mieux de faire ça dans un stade un petit peu plus. Enfin, c'est pas encore décidé officiellement. Mais
je pense qu'il y a des contrats, non?
Sébastien Tarago, l'équipe.
Bien sûr.
Parce que j'avais lu il y a quelques temps, quelques jours, que Paris Saint-Germain-Saint-Etienne pouvait éventuellement être accueilli à Châteauroux.
Oui, mais fondamentalement, je ne sais pas si ça changerait grand-chose.
Oui, mais à huis clos.
Le problème,
c'est sûr que ça fait sourire.
Moi, j'ai un grand jardin. Le problème, c'est qu'il y a des contrats avec le consortium du Stade de France, forcément. Donc là aussi, il faudrait se pencher sur les contrats. Il faudrait que ça arrange tout le monde, que la finale se joue ailleurs. Mais parce qu'effectivement, sans doute que ça coûte plus cher à organiser, même à huis clos,
au Stade de France
qu'à Châteauroux, puisque vous prenez cet exemple. Mais il y a des contrats. Donc les contrats, ils doivent être respectés, sauf si tout le monde est d'accord pour les annuler. Mais oui, il faut quand même rappeler que la Fédération française de football, là aussi, elle attend un chèque, notamment de France Télévisions, de plusieurs millions d'euros. Donc c'est pour ça qu'elle veut que ces finales se disputent.
Oui,
pas être naïf. Et faut rappeler aussi qu'elle a un grand manque à gagner par rapport aux matchs de l'équipe de France qui ont été reportés. Il y en a eu 4.
Ouais, 4 qui seront normalement rejoués à la rentrée.
Et les droits télé pour chaque match de l'équipe de France, si je ne dis pas de bêtises, c'est au moins 3,5 millions d'euros. Ça fait des sous.
Ouais, ça fait des sous.
Ça fait des banquets. Bah oui, je compte ses coups, puisqu'après, il faut les faire. Ça fera des matchs d'entraînement. Enfin, le PSG en aura 2, Saint-Etienne 1, Lyon 1, puis les autres, on verra ce qu'ils vont faire. Mais je trouve ça toujours un peu bizarre d'ouvrir une saison par des coupes. Bon, à la Coupe de la Ligue, de toute façon, paix à son âme, c'était fini. Elle était en soins palliatifs. Mais à la Coupe de France, quand même, qui est une belle compétition, je trouve ça un petit peu dommage de la jouer en tout début de saison avec des équipes qui ne seront pas encore forcément prêtes. Ça va un petit peu dévaluer la chose. Ça va ressembler à un trophée des champions.
C'est plus le manque de rythme qui vous gêne que le week-end.
Ouais, ça va ressembler un peu à un trophée des champions. Voilà, on le regarde en début d'année parce qu'on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Mais enfin, quand on est devant soi, on a un œil sur la télé puis l'autre sur l'apéro. Parce que franchement, c'est quand même pas du grand football. Donc c'est un peu dommage. Moi, je trouve. Franchement, est-ce qu'il fallait vraiment les jouer, hormis pour les raisons que vient d'évoquer Sébastien? Est-ce que ça va apporter? Est-ce que, enfin, moi j'imagine, par exemple, Saint-Etienne, admettons, fait l'exploit et bat le Paris Saint-Germain. Je les imagine monter, soulever la coupe face à un stade rempli quoi, de poupées gonflables, de rien du tout.
Ouais, mais c'est notre bizarre, vie maintenant. C'est-à-dire que le souci, c'est concrètement. Moi, j'étais contre au tout début de la pandémie. J'étais contre les matchs à huis clos. On évoquait des matchs à huis clos. J'étais contre. J'ai trouvé le match entre le PSG et le Borussia Dortmund abominable. Je n'y ai pris aucun plaisir. Et j'avais même des difficultés à juger la prestation des joueurs. Voilà, je le dis sincèrement. Mais là, moi, je me pose la question de savoir s'il y aura du public en 2020-2021. Je ne sais pas. Donc là, ça devient problématique. Et je me dis, oui, vu tout ce qui se passe, c'est mieux que rien. C'est moins pire, si vous préférez. Donc, c'est un vrai souci. On va devoir s'adapter à ce monde qui nous attend et qui est incertain.
Je rejoins Sébastien parce que moi, j'ai regardé un peu les matchs, comme vous, j'imagine, de Bundesliga la semaine dernière. Alors, évidemment, c'était pas du grand football après autant de semaines de coupure. mais j'ai pas trouvé que techniquement parlant et même physiquement parlant, c'était aussi catastrophique qu'on nous l'annonçait. Alors il faudra voir peut-être dans 3-4 semaines, il y aura aussi un petit contre-coup et compagnie. Mais bon, évidemment, de toute façon, en début de saison, les matchs sont souvent comme ça. Donc on peut estimer qu'après quelques semaines de préparation, eh ben, on n'a pas un énorme football. Alors évidemment, le public, le bruit, tout ça, ça nous manque. Mais j'ai trouvé qu'au niveau purement football, si on se concentrait uniquement sur le foot et qu'on connaît le contexte, Eric, j'ai pas trouvé ça si mauvais.
Tu sais, le problème, mais moi je comprends, je jette la pierre à personne. Je comprends qu'on reprenne le football, vraiment. Mais pour la santé des joueurs, l'intégrité physique des joueurs, c'est un scandale absolu. C'est-à-dire que tout le monde sait, les études le prouvent, qu'avec aussi peu de préparation, il va y avoir énormément de blessures. C'est prouvé scientifiquement par des études. C'est-à-dire que là, c'est des joueurs qui parfois ont arrêté de s'entraîner normalement pendant 2 mois. S'entraîner normalement, parce que si tu fais des 30-30 sur le terrain, je veux dire, ça sert à rien. Enfin, c'est bien, mais ça ne sert pas pour jouer au foot, pour se préparer.
À Barcelone, ils s'entraînent souvent comme ça, toute l'année.
Mais,
selon certains joueurs.
Et là, c'est quand même un énorme souci. Ils reprennent le football sans s'entraîner. Ils sont entraînés 8 jours. Et ils n'ont jamais eu d'aussi longues vacances de leur vie en tant que footballeur professionnel. D'habitude, les internationaux ont 3 semaines de vacances. Et ceux qui ne sont pas internationaux, qui jouent en Ligue 2, ça peut monter jusqu'à 5 semaines peut-être. Mais c'est le maximum. Là, ça a duré 2 mois. C'est insensé sur le plan physiologique.
Philippe
après, ok, on prend le risque. Très bien.
Mais il y a cette notion-là qui est importante. On sait très bien que tout est guidé par la dominante économique. Mais même quand on réfléchit, moi j'ai fait évoluer aussi ma réflexion sur le côté sportif des choses. C'est-à-dire que moi je trouve que reprendre ces compétitions 2 mois après, dans des conditions qui sont totalement différentes, à huis clos comme on l'a dit, c'est plus la même compétition. Et moi j'en reviens finalement, même si c'est une idée qui a été dévoyée parce que derrière il y avait un intérêt particulier et que Jean-Michel Aulas, en mettant les pieds dans le plat dès le début, a démontré qu'il essayait de faire passer les solutions qui l'intéressaient avant tout personnellement, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, mais l'idée de la saison blanche...
Ah punaise, enfin un.
Moi je trouve qu'en fait... C'est une saison qui, de toute façon, ne sera pas une saison normale.
Normal, ouais.
Et que tu reprends 2 mois après, l'équilibre des forces n'est pas les mêmes. Vous avez des joueurs qui étaient blessés à l'époque qui ne le sont plus aujourd'hui ou inversement. Pour moi, il aurait fallu arrêter et dire voilà, ça n'a pas existé. Il s'est passé un truc dont on parlera encore dans 100 ans.
Ouais.
Eh bien, il n'y a pas de champion de France cette année.
Philippe,
il n'y a pas de vainqueur
de course. Tu me fais plaisir parce que je défends cette position depuis mi-mars. Je n'ai reçu qu'insultes ou mépris.
Mais encore une fois, ma position a évolué. Au début, je pensais qu'il fallait essayer de reprendre. Maintenant, je m'aperçois que ça n'a pas de sens.
À comprendre comment on peut défendre l'inverse. Et j'essaye de comprendre mes petits camarades. Mais je n'arrive pas à comprendre, quand on aime le sport, comment on peut accepter l'idée qu'on décerne des qualifications, des montées, des descentes, alors qu'on n'est pas allé au bout de la compétition. Ça, c'est tout ce qu'on aime dans le sport, les renversements. On aime quand il y a 1-0 à la 80e minute et que l'équipe adverse gagne 2-1.
Ouais.
Et ça, c'est le sport. Et là, ça va à l'encontre de tout ça. C'est pour ça qu'Amiens, c'est scandaleux qu'ils montent, qu'ils descendent. Mais même Toulouse, bien sûr que Toulouse allait descendre, mais même Toulouse, je défendrai aussi Toulouse. Et je trouve scandaleux aussi qu'en Ligue 2, il y ait ces deux clubs qui montent en Ligue 1. Tant mieux pour eux.
C'était très, très, très
ils avaient un point d'avance sur le troisième. Le deuxième avait un point d'avance sur le troisième.
Ouais,
vous êtes troisième à un point de la montée, vous êtes défavorisé d'une manière scandaleuse.
Il y a des sports où on ne serait pas posé la question.
Philippe s'en fout.
Imaginez un match, un Nadal-Federer en finale de Wimbledon,
ben
il
oui.
est 2-7-1 pour Federer, le match s'arrête et on donne le trophée à Federer, ça s'est jamais vu que Nadal il pouvait remonter et gagner en 5-7, c'est l'essence même du sport, effectivement.
Ouais, mais Philippe, là t'es sur un temps rapproché, t'es sur 4-5 heures, là aussi, la saison blanche, le problème c'est comme c'est nier aussi le travail de gens sur plusieurs mois, c'est dire en gros ce que vous avez fait, poubelle, allez c'est terminé, imagine
c'est
toi,
on te
demande de développer un projet, tu bosses pendant des mois
si
et
la
tout,
pandémie elle arrive un petit peu plus tôt
et on te dit, oh ben non, finalement, on a changé d'avis. Bah oui, c'est la vie.
On n'est pas allé au bout.
Oui, mais c'est aussi injuste quelque
C'est-à-dire
part.
Qu'une une pièce de théâtre, elle va au bout, oui, sinon elle n'a pas de sens. Un film, il va au bout, sinon il n'a pas de sens.
Sébastien, c'est 2 formes d'injustice. Toi, tu plaides pour cette injustice sportive qui est que peut-être qu'éventuellement ils auraient pu se sauver et que c'est injuste d'arrêter. Mais moi, je te plaide pour la justice du travail. C'est-à-dire qu'en gros, t'es en train de dire aux gens, tout ce que vous avez fait, c'est poubelle, ça ne servait à rien. Bah non, je suis désolé.
Non, mais tu dis aussi.
Non, mais c'est aussi, et c'est aussi, et c'est aussi injuste parce que finalement, ceux qui vont être récompensés de cette décision ne seront pas forcément ceux qui l'ont mérité. On reprend l'exemple de Lyon qui a été, voilà, qui a été pendu. Si Lyon se retrouve européen au début de cette saison alors qu'il ne le méritait pas.
Je ne parle même pas de Coupe d'Europe.
Oui, non, mais ça joue aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi une forme d'injustice.
Moi, j'ai évolué aussi, j'essaye d'écouter.
Sébastien Tarago.
J'ai évolué dans ma réflexion, pour les qualifications en Coupe d'Europe. Moi, personnellement, après, je suis prêt à tout entendre et je comprends. Je comprends que la solution prônée par Jean-Michel Aulas puisse choquer, vraiment. Et pourquoi pas, effectivement, laisser trouver une autre solution. J'ai pas de souci avec ça. Mais faire monter des clubs et faire descendre des clubs quand on sait l'impact que cela a, c'est pas possible.
Je suis d'accord avec Sébastien et Philippe. Alors, pas tant sur la saison blanche, mais sur l'histoire des montées et des descentes. C'est-à-dire qu'on fige le classement et le championnat à un moment donné parce qu'on ne peut pas aller au-delà. Ok. Mais dans ces cas-là, pourquoi on va pas au bout de la réflexion? C'est-à-dire que dans le règlement de la Ligue 1, normalement, c'est deux descentes et un barragiste. Et dans les montées, tu as deux montées et tu as un barrage entre le 3e, le 4e, le 5e et le 6e. Pourquoi ne pas, puisqu'on peut jouer début août les finales
les
de coupe, par exemple, pourquoi,
faire jouer les barrages là.
Ben oui, pourquoi on ne fait pas jouer un barrage 3, 4, 5, 6 en Ligue 2 avec le vainqueur de ce barrage contre le 18e de la Ligue 1? Comme ça, c'est imparfait, mais au moins, le règlement tel qu'il a été prévu, si tu es 3e de Ligue 2 à un point de la montée, eh ben, tu as la possibilité, grâce au barrage, de monter.
Il faut faire vite quand même, parce que ça fait beaucoup de matchs.
Alors, le problème c'est qu'on a inventé ce barrage à 4 en Ligue 2, mais ça aurait été plus simple de faire le 3e contre le 18e de Ligue 1, mais on a voulu rajouter des matchs. Bon, le règlement, il est comme ça.
Après, pourquoi pas, mais...
On se retrouve dans quelques secondes pour terminer. On refait le match de ce 23 mai. Nous allons continuer à parler d'ailleurs de ce débat intéressant entre le huis clos, la santé, prioritaire des joueurs avec des blessures possibles. Dans quelques instants, jusqu'à 20h, avec Sébastien Tarago de l'équipe, Florian Gazan avec Silvestro et Philippe Sanfourche d'RTL. À tout de suite.
RTL, on refait le match.
RTL, on refait le match.
Avec Denis Balbir.
On va repasser par Baptiste Durieux pour la réaction sur les réseaux sociaux, justement, par rapport à huis clos, au risque sanitaire pour les joueurs. Baptiste.
Baptiste.
Oui, excusez-moi, je vous entendais un peu mal, Denis. On a des petits problèmes en régie.
Non, il n'y a pas de problème.
Message d'Alexis qui nous disait, c'est assez surprenant, j'adore le huis clos, déjà parce que je ne suis pas frustré de ne pas avoir eu de place pour aller au stade, et aussi parce que j'entends tout, le bruit du cuir dans les filets, les consignes des coachs, les cris, les insultes entre joueurs, ce que dit l'arbitre, c'est un match dans le match, et j'aime ça, nous dit Alexis.
D'accord, bah écoutez, oui, pourquoi
pas. Ça va être génial. En plus, apparemment, on pourra remettre des fumigènes. Bon, il n'y aura personne pour les allumer, mais on pourra en mettre.
Après, il y a des tentatives de certaines télévisions, notamment, de rajouter du bruitage.
Oui, c'était étudié, oui.
Alors, je pense que le débat va être intense, là aussi, parce qu'effectivement, on n'est plus dans la réalité, mais... Je peux comprendre.
Bah, sinon,
tu étais
chez
ça.
Toi, tu regardes le match, tu tapes sur une casserole, ça fait.
Non, mais c'est pas pareil comme effet. Quand même,
tu crois que sur le match,
parce que moi, ils ont tapé sur des casseroles pendant 2 mois, les gamins. Chez toi, j'avais envie de les égorger au bout d'un moment.
Ça a finalement pas été validé. Ça a pas été jusqu'au bout de la démonstration, mais les Allemands ont réfléchi. Il y a une application qui existe.
Oui, ça c'est aussi.
Avec des boutons où les supporters de chez eux peuvent appuyer pour siffler ou pour applaudir ou pour encourager.
C'est les jeux du cirque.
Est-ce que pour les matchs,
on n'est plus dans le.
Tu crois que pour les matchs de Ligue 1,
il y a quand même un lien avec les supporters.
Tu pourras mettre des faux rires pour les matchs de Ligue 1, non ? Comme les séries AB.
On va parler, Philippe Sanfourche, du refus des joueurs du Paris Saint-Germain de baisser leur salaire.
Oui, alors c'est vrai qu'on focalise beaucoup sur le Paris Saint-Germain parce que c'est les plus gros salaires, mais moi je m'aperçois que c'est un petit peu partout. Dans tous les clubs en France où il y a une difficulté à mettre en place. C'est extrêmement compliqué parce que une fois qu'on s'est mis d'accord et globalement, même tous les joueurs comprennent qu'il y a une nécessité d'être un peu solidaire. Mais après, on rentre. Il faut savoir qu'un contrat de footballeur, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Et qu'il y a toujours des négociations
à la Juve et
sur
à la Roma,
certaines
alors.
Primes, des choses qui sont à revoir sur le contrat suivant. Est-ce que ça va rentrer dans le cadre d'une prolongation ou pas ? Il y a toujours, en fait, des bisbilles et des allers-retours avec les directions. Et en fait, les joueurs ne veulent pas accepter des choses sans avoir des contreparties. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tractations. Et puis, c'est comme dans la vie, c'est comme dans une entreprise. Par exemple, on a le sentiment qu'aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, Thiago Silva est un petit peu au centre des blocages. Mais Thiago Silva, il est en fin de contrat. C'est comme une personne qui va être dans une entreprise en CDI qui a deux ans de la retraite. Elle a moins de velléité à accepter une baisse de salaire qu'un jeune qui sort de l'école et qui a toute sa carrière
et puis,
à faire.
Moi, Sébastien Tarago, je dis juste qu'il faut faire attention à la démagogie sur ces sujets. C'est-à-dire que même s'il gagne beaucoup d'argent, la plupart, et au PSG tous, si vous gagnez 1 million aujourd'hui, vous en donnez quand même 16%, donc 160 000, voilà, vous perdez déjà 160 000 euros sur votre salaire. Ce n'est pas zéro.
Avec le chômage partiel.
Voilà, avec le chômage partiel. Voilà. Un footballeur qui gagne 1 million,
il reste 800 000. Quoi.
Non, mais bien sûr, mais.
Non, mais c'est juste
évitons
pour faire...
la démagogie. Essayons de comprendre.
C'est un calcul.
Essayons de comprendre. Essayons de comprendre. On n'est pas à 40 000 euros. Essayons de comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'un joueur.
Peut-être.
De plus, la plupart de ces joueurs font des dons. Et on fait des dons.
C'est
alors
vrai.
C'est défiscalisé, on peut trouver, chercher le mal partout.
Non, c'est vrai.
Ils font des dons. Kylian Mbappé en a fait un gros, visiblement, à la Fondation Abbé Pierre, je crois.
Neymar l'a fait.
La plupart le font, certains le disent, certains ne le disent pas. Donc on peut pas juste voir les côtés négatifs.
Moi ma question c'est pourquoi ça marche à la Juve et à la Roma et pas en France.
Mais après ça dépend des clubs. Vous
à
savez.
Chelsea ça
à
pas
Chelsea
marché,
hein. Y en a pas eu. À Manchester City il y en a pas eu. Il y a vraiment de tout sur le marché européen. Après il faut voir aussi comment on se comporte. Quel est le projet que tu as vendu au joueur. Quand le projet que tu vends à un joueur c'est l'argent. Eh ben, il y a des chances que quand on commence à essayer de rogner sur l'argent, on ne veuille pas.
Il y a beaucoup de transport aussi.
Je pense que quand Neymar est venu au PSG, l'argent a joué quand même son rôle, me semble-t-il.
Puisqu'il
a plus que doublé son salaire barcelonais.
C'est possible.
Puis il doit y avoir aussi dans l'esprit des joueurs le fait qu'il y a un actionnaire qui est un actionnaire État, qui est le Qatar, qui n'est pas spécialement touché par... par la crise actuelle et que je pense qu'il y a moins de scrupules à ne pas vouloir payer. Mais,
et puis il y a l'attitude des dirigeants parfois.
Vous savez, Sébastien Tarago,
quand on t'oblige.
Il y a une forme de. Là, on n'y est pas. Je ne veux pas m'avancer, mais ça dépend comment on vous parle, ça dépend comment on se comporte, ça dépend comment votre employeur se comporte avec vous.
Et comment on te vend le truc?
En ce moment, je peux vous dire que Nasser Al-Khelaifi, lors des conseils d'administration de la Ligue, on en parle peu, mais il se comporte de manière très virulente. Et très dirigiste. Certains masques tombent. C'est intéressant. Mais moi, je ne sais pas comment ils leur parlent. Voilà. Donc, ça dépend. Si on vous demande s'il vous plaît, il y a plus de chances que si on vous oblige et qu'on croit qu'on fait ce qu'on veut de vous.
Pour conclure, un petit tour de table, on l'a évoqué avec Antoine Comboiré, Laurent Blanc, qui, son nom ressort au bout de quelques années pour retrouver un banc. Philippe Sanfour, Chertel.
C'est vrai que sur la qualité de l'entraîneur, je veux dire, depuis que le Qatar est à la tête du Paris Saint-Germain, moi, l'équipe qui m'a donné le plus de plaisir et qui a développé une philosophie de jeu la plus intéressante, même si à la fin il fallait la renouveler, mais ça c'est l'histoire des cycles et c'était peut-être logique, mais je trouve qu'il a démontré qu'à très haut niveau, on lui prête parfois un petit peu moins de facilité dans l'expression qu'un Deschamps, mais il a d'autres qualités, il a un charisme qui est important dans un vestiaire, il a quand même driver des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic et il les a fait monter à un très haut niveau. Donc moi je trouve que c'est un non-sens aujourd'hui qu'il soit pas à la tête d'une grande, d'une belle équipe.
Florent Gazan.
C'est même lui qui a obtenu, je crois, les meilleurs résultats sous l'ère qatarie avec le Paris Saint-Germain en termes de trophées. C'est lui qui a fait le quadruplé.
Et même en Coupe d'Europe.
Oui, et même en Coupe d'Europe. Le problème de Laurent Blanc, je pense qu'il a été son propre ennemi. C'est-à-dire qu'il a peut-être visé un petit peu trop au début. Il voulait absolument un top club pour avoir des top joueurs, avoir des top résultats. Et puis, quand ça vient pas, il faut un petit peu baisser ses exigences et peut-être qu'il ne l'a pas encore fait. Aujourd'hui, ça fait 5 ans et ça fait long, mais c'est vrai que c'est une anomalie limite que Laurent Blanc ne soit pas entraîneur aujourd'hui.
Éric Silvestre.
Ça va faire bondir Jean-Michel Aulas, mais ses exigences ont déjà un peu baissé puisqu'il était prêt à aller à l'Olympique Lyonnais et je trouve ça très bien parce que je suis d'accord avec Florent. Maintenant, Laurent Blanc, il faut qu'il accepte. Il ne peut pas entraîner que le Real, Barcelone, Manchester City. Voilà, il faut qu'il reparte d'un peu plus bas. J'espère qu'il est prêt à le faire au niveau humilité parce qu'on a tous envie de voir Laurent Blanc à nouveau sur un banc et un bon projet avec un club, on va dire, moyen, ce serait bien.
Merci à Sébastien Tarago de l'équipe, Florian Gazan, Eric Silvestro, Philippe Sanfourche d'RTL et Baptiste Durieux qui étaient là pour relayer les propos des auditeurs ou plutôt leurs opinions. Et puis à Lucas Dindeleu qui a réalisé cette émission. On se retrouve bien sûr samedi prochain. Très bonne soirée, très bon week-end. À tout de suite sur RTL.